Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique à 20h passé de 13 minutes en direct sur France Culture ce soir dans Soft Power. Cédric O, c'est son nom de famille, O, une seule lettre, a été nommé cette semaine au poste de secrétaire d'État au numérique. On vous l'annonçait d'ailleurs en direct dimanche dernier dans cette émission où il remplace Mounir Majoubi qui se consacrera désormais à son mandat de député, mais aussi à la conquête de l'investiture La République En Marche pour la mairie de Paris. Quel bilan peut-on dresser après 2 années d'action pour Mounir Majoubi? Qui est Cédric O, le nouveau monsieur numérique du gouvernement, et surtout, que sait-on de sa feuille de route? Pour en discuter ce soir avec moi en studio, Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express, qui est resté avec nous. On commence avec vous, Emmanuel.
Oui, alors on peut dresser déjà un premier bilan.
Mounir, d'abord.
De Mounir Majoubi, effectivement. Donc c'est plutôt un bilan mitigé, parce que c'était un secrétaire d'État qui était extrêmement bon communicant. On l'a vu plusieurs fois à la télé, en radio, en presse écrite. C'était quelqu'un qui communiquait très bien avec les journalistes, qui était vraiment sur tous les sujets, qui pouvait prendre la parole et savoir s'exprimer en bonne
connaissance
de cause.
Y compris sur les gilets jaunes.
Y compris voilà sur des sujets
sur
qui étaient un peu plus larges que son
sujets,
secrétariat, ouais. Effectivement. En revanche, au côté bilan, c'est un peu... Il part au moment où la 5G, par exemple, est lancée en Corée du Sud, puisque le lancement était prévu donc ce vendredi par 3 opérateurs télécoms, donc la téléphonie mobile du futur, celle à très haut débit, et au moment où Verizon aux États-Unis lance la sienne cette semaine. Donc, et la France, me direz-vous, eh ben on va attendre au moins 2020 pour les enchères, puisque le secrétariat d'État au numérique et puis Bercy, puis même le gendarme des télécoms ont mis un peu de temps pour mettre en place ces fréquences.
Ça veut dire qu'on est très en retard sur la 5G.
Nous, on est très en retard. Voilà, normalement, l'Angleterre devrait le lancer d'ici la fin de l'année sur son territoire, et l'Allemagne est en train de vendre ses fréquences à l'heure où on se parle. Donc, on voit bien que la France est un petit peu en arrière par rapport aux grands pays européens. Autre élément, le New Deal sur la 4G, par exemple. Donc, le deal était entre les hommes politiques d'un côté, enfin le gouvernement d'un côté, et de l'autre les opérateurs. C'était de dire, les fréquences, on va vous les faire payer beaucoup moins cher, mais en contrepartie, on va vous demander d'apporter la 4G très rapidement, un peu partout en France, pour que tout le monde ait accès à cette nouvelle technologie. Et ce New Deal a été pour l'instant respecté par les opérateurs, mais c'est directement Bercy qui s'en est occupé. Très peu Mounir Majoubi. Donc en réalité, il est resté sur des sujets qui étaient quand même relativement annexes, comme la French Tech par exemple.
Oui, il s'est occupé de la promotion des startups françaises, disons.
C'est ça, exactement. Et puis à disons, modifier et améliorer les processus au sein de la French Tech pour de donner par exemple le label French Tech à une entreprise. Et puis sur la charte e-commerce qui était un de ses grands dossiers, c'est-à-dire en gros aujourd'hui sur les places de marché comme celle d'Amazon, l'idée c'est qu'il y a des vendeurs qui viennent directement dessus, qui se servent de la puissance d'Amazon pour vendre des biens, des services ou des produits. Et ce que on peut leur reprocher, c'est que Amazon ou d'autres grands du commerce en ligne dictent leurs règles à des petits vendeurs et peuvent changer d'avis à peu près quand ils veulent, et surtout sur les commissions qu'ils pouvaient prendre. Donc il a voulu mettre en place une charte de bonne conduite que tout le monde a signée, sauf Amazon. Donc il est parti au moment où Amazon refusait de signer cette charte. Donc pour le coup, cette charte ne vaut pas grand-chose parce qu'Amazon est quand même le leader sur le marché français. Donc il y a eu beaucoup de paroles et relativement peu quand même d'actes autour du bilan de Mounir Majoubi.
Donc toujours sur ce bilan Mounir Majoubi, la défense d'un numérique plus inclusif, on peut quand même porter ça à son crédit et plus de diversité, notamment avec ces femmes at numérique ou la French Tech tremplin pour les populations éloignées disons du numérique. Il y a eu des actions sur la dématérialisation de l'État, notamment avec France Connect, même si bien sûr on peut dire qu'il aurait pu faire plus et plus vite. Les difficultés sur le Conseil national du numérique, on peut y revenir, quasi fiasco, et puis peu d'actions sur le front de la cybersécurité. Votre avis, Gilles Fontaine, journaliste à Challenge.
Oui, moi je trouve, de toute façon, on va pas revenir trop longuement sur Mounir Majoubi. Je trouve mon collègue Emmanuel Paquette un peu sévère, d'autant plus que on le sait, la politique numérique, la stratégie numérique de la France, l'idée, le concept de Startup Nation, tout ça a été développé notamment à l'Élysée. C'est une thématique ou des thématiques très chères au président de la République et à son conseiller au digital qui se trouve être Cédric O. Donc on peut dire aussi que si les choses ne sont pas allées aussi vite qu'elles auraient dû ou qu'on aurait pu l'espérer, bien que Cédric O lui-même a peut-être joué un rôle là-dedans. Cédric O, c'est un profil un petit peu différent de celui de Mounir. Autant on a l'impression
que... Alors c'est qui exactement, voilà, justement?
Mounir Majoubi, on a l'impression qu'il était tombé un peu dans la marmite du numérique quand il était tout petit. Cédric O, c'est un petit peu différent. 36 ans aujourd'hui, HEC, diplômé d'HEC, passé par Safran, et puis une carrière politique aussi bien remplie, malgré sa jeunesse. En 2006, il était dans l'équipe de campagne de DSK pour la présidentielle, et c'est là qu'il avait noué ses liens avec les macronistes de la première heure, Ismaël Emelien, Benjamin Griveaux, Stanislas Guérini.
Donc il fait partie des très proches du président et un peu de. Il est même trésorier, je crois, du Mouvement En Marche.
Il a été pendant la campagne. Alors il a fait aussi la campagne de François Hollande à partir de 2010, et il était aux côtés d'Emmanuel Macron quand celui-ci s'est lancé dans la course à l'Élysée. Il était conseiller, il était trésorier, comme vous l'avez dit, ce qui lui avait eu quelques problèmes. Hein, c'est un peu un comble pour un spécialiste du numérique, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où on a, en tout cas dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on a eu un peu peur à la veille du second tour, puisque le compte, la messagerie et le compte Gmail et le Google Drive de.
D'Emmanuel Macron.
De Cédric O a été Cédric piraté O, pardon, ouais. Et à partir de là, des rumeurs avaient circulé sur de potentiels comptes offshore dans les paradis fiscaux, etc. Bref, les choses se sont
donc
finalement pas
très
mal.
Politique, plutôt chargé des questions économiques. Ouais. HEC, vous l'avez dit. Ce qui était amusant aussi, c'est qu'il a fait partie. On l'avait annoncé pour être celui qui allait faire le casting choisir le nouveau ministre. Or, c'est lui qui a obtenu le poste.
Finalement, il a pris le job. Il a peut-être qu'aussi Emmanuel Macron souhaitait d'avoir effectivement quelqu'un de parfaitement
à lui
et 100% connecté avec ce qu'il pouvait penser. On l'a vu, Emmanuel l'a dit, en fin de parcours, Mounir Majoubi prenait quelques libertés, y compris sur sa propre communication.
Peut-être sa candidature à la mairie de Paris qui avait ennuyé. Était trop active.
Et lui-même disant qu'il ne faisait même plus relire ses interviews par les conseillers de l'Élysée, qu'il était libre de sa parole, etc. Peut-être que ça a servi un petit peu de warning à l'Élysée, comme à Matignon, d'ailleurs, puisqu'il conseillait aussi Édouard Philippe sur les questions.
Oui, parce que Cédric O est un conseiller à deux casquettes, ou plutôt, je ne sais pas comment on dit exactement, puisque c'est faire partie de ces conseillers qui sont à la fois à l'Élysée et à Matignon, voilà. Ce qui n'existait pas auparavant. Donc c'est une singularité de l'ère Macron, on peut dire.
Oui, alors il y a des fois il y a eu des conseillers quand même qui avaient une double casquette entre le cabinet du Premier ministre et celui de l'Élysée. Mais là, c'est vrai que c'était assez rare. Et puis sur des sujets qui étaient quand même assez importants, puisqu'il y avait le numérique, certes, mais il y avait aussi les participations de l'État. Donc aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible, puisque ça recouvre quand même des grandes sociétés du type Orange et d'autres, EDF notamment, Engie, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets très sensibles pour l'État français.
Alors Gilles Fontaine, la feuille de route, quelle est-elle la feuille de route pour Cédric O, donc le nouveau secrétaire d'État au numérique?
Alors on l'a vu prendre la parole quelques jours, seulement après sa nomination. C'était le 3 avril, donc le mercredi 3 avril, 3-4 jours après sa nomination. Il est d'abord passé à Station F, notamment rendre les médailles de la fameuse capitale et communauté French Tech. Il est ensuite allé chez Doctolib, l'une des futures licornes françaises.
Une licorne, ça veut dire une entreprise.
Une licorne, ça veut dire que c'est une entreprise.
Qui n'est pas encore cotée, mais qui est évaluée à plus de 1 milliard.
Exact, 2 dollars.
2 dollars.
Et donc, il a dit plein de choses, mais on n'a pas forcément bien compris où il nous emmenait. C'est un petit peu les critiques générales qui remontent. Donc, il a ressorti quelques évidences que la France et les entrepreneurs français devaient être meilleurs que les autres, être plus astucieux, ne pas avoir honte de s'engager. Voilà, il a beaucoup cité Mark Zuckerberg et quelques gros entrepreneurs américains à succès, disant notamment que voilà, il fallait suivre aussi l'exemple de ces grands entrepreneurs américains, exemple de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, des fondateurs de Google qui ont su rendre et rester humbles et rendre un petit peu une part de leur réussite et emmener tout le monde avec eux. Bon, c'est un petit peu ce que font déjà nos entrepreneurs français quand on voit ce que font Marc Simoncini, Xavier Niel, quelques grands gens, quelques grands noms de notre French Tech, de notre Startup Nation en gestation, ou ce que font des gens au sein de l'association France Digitale, c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Alors, on l'attend évidemment sur quelques grandes thématiques, hein, je peux en citer quelques-unes et puis Emmanuel complétera, mais en tout cas, lui, on a cité deux principalement.
La régulation des GAFA, hein, des plateformes.
Alors, lui, il n'a pas cité la régulation des GAFA, non. Justement. Il a cité deux choses, la loi contre les contenus haineux, notamment sur les réseaux sociaux, et puis la loi de régulation sur l'audiovisuel qui est annoncée pour cet été. Par contre, effectivement, vous citiez la lutte contre les GAFA, enfin, en tout cas, contre l'ultra-puissance des GAFA, il n'en a pas été question, puisqu'au contraire, il les a plutôt loués. On sait qu'il est assez proche de Facebook et de Mark Zuckerberg, enfin, en tout cas, de l'équipe de Mark Zuckerberg, puisqu'il avait organisé un déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron au mois de mai de l'année dernière. Il avait aussi organisé cet événement de Tech for Good, puisqu'il avait réussi à rassembler des entrepreneurs américains, des géants du net, pour essayer de les raisonner et de faire en sorte que ces gens-là payent leurs impôts un peu en France quand même aussi, appliquent les régulations, notamment sur la protection de la vie privée, etc. Voilà, on l'a pas senti très remonté contre Amazon, Facebook,
Emmanuel
Google
Paquette,
ou Apple.
Journaliste à l'Express, donc justement, quelle pourrait être, à vos yeux, cette feuille de route, régulation des plateformes, valorisation des startups françaises, ça il le fait, inclusivité et numérisation de services publics, on l'a évoqué tout à l'heure, mais que pensez-vous de ce que devrait être son programme ?
C'est vrai que pour l'instant, il a repris en grand les grands thèmes de Mounir Majoubi, hein, sur l'inclusion numérique notamment, pour apporter le haut débit et le très haut débit à 13 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent très peu Internet, voire pas du tout. Donc ça fait partie effectivement du phénomène d'inclusion numérique. Ça, c'est un de ses grands projets. Il y a effectivement, comme le disait Gilles tout à l'heure, le projet de loi contre les propos haineux en ligne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est arrivé, sa première semaine, il y a eu quand même... Alors, moi, je considère deux petits dérapages. Peut-être Gilles le partagera pas vraiment avec moi, mais c'est vrai comme il a fait l'apologie de Zuckerberg. Il a dit, lui, ne vend pas des cravates. Lui, c'est quelqu'un qui veut changer le monde. Et il dit ça, c'est quand même la semaine où Facebook a, encore une fois, laissé filtrer 540 millions de données personnelles via une application tierce logée au Mexique. Et Facebook a tout de suite essayé de réagir en disant on va tout de suite stopper ces 540 millions de données qui étaient accessibles, logées sur un serveur Amazon. Donc dire ça le jour où 540 millions de données sont accessibles sur Internet, bon, on peut considérer que c'est une faute politique ou une petite erreur. Et puis le deuxième, c'est quand même Twitter qui a décidé de bloquer une communication du gouvernement qui voulait simplement dire pour les Européennes aller voter, donc faire la promotion des élections européennes. Twitter a dit non, parce qu'on considère que c'est une fake news selon la loi française voulue par Emmanuel Macron, et donc a bloqué le dispositif.
De publicité politique.
De publicité politique, exactement. Donc il s'est fendu d'un tweet sur Internet, Cédric O, disant qu'il allait convoquer le directeur Europe de Twitter pour avoir des explications et pourquoi le réseau social bloquait cette campagne de publicité. Finalement, il n'a pas eu à le faire puisque cette campagne a été débloquée quelques jours après par Twitter sous la pression de différents hommes politiques. Mais on voit que cette première semaine a déjà été un tout petit peu agitée.
Gilles Fontaine, quelle serait, pour conclure, votre feuille de route idéale pour Cédric O, nouveau secrétaire d'État au numérique ?
Bon, on l'a cité effectivement, l'inclusion numérique, ça va être un très gros thème, hein, parce qu'en plus, juste à la veille de la nomination, Cédric O, Édouard Philippe avait fait aussi une annonce, hein, sur son plan de réforme de l'État pour un État plus efficace, avec l'objectif d'être en 100% de démarches administratives en 2022. Donc c'est lui qui va devoir aussi accompagner ce mouvement-là. La 5G, ça va faire partie de ses attributions. La lutte contre la cybercriminalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que son prédécesseur, on ne l'a pas cité, mais Mounir Majoubi avait fait un plutôt un bon travail de ce côté-là pour essayer d'aider notamment les PME, PMI à trouver des armes efficaces pour lutter contre ce fléau. Le fameux Next 40 aussi, hein, normalement Mounir devait l'annoncer dans les prochains jours, on n'en parle plus du tout, c'est une liste de belles pépites françaises qu'on devait pousser, mettre en avant. Bon, c'est un petit peu bon, la femme numérique aussi, la parité dans cette industrie qui est quand même aujourd'hui dominée à plus de 85% par des hommes. Voilà, ça fait des tas de choses. Et peut-être un petit peu réformer ce mouvement French Tech qui quand même commence à vieillir un petit peu. Quoi. Voilà,
qui avait été lancé par, ados, à l'époque par
petit pins, rouge, Fleur Pèlerin. Ça va bien. Ouais. Il est temps que je pense qu'on passe à autre chose.
Voilà. Un gros pins.
Un gros pins.
Merci infiniment. On en reste là pour ce soir. Emmanuel Paquet de l'Express, Gilles Fontaine de Challenge. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission au financement participatif, c'est-à-dire au crowdfunding, ces entreprises ou ces associations qui aident à financer des projets grâce à un très large nombre de personnes. Dans un instant, Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps de vous signaler que Jean-Michel Blanquer sera demain l'invité des matins de France Culture. Ne pas rater donc demain matin. Et ça, c'est une vraie information, non pas comme la semaine dernière où l'annonce de Mark Zuckerberg dans les matins du 1er avril était bien sûr un poisson d'avril. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.